Nous désirons informer la population des Basques qu'Éco Entreprises Québec procédera à la distribution des bacs bleus pour la collecte des matières récupérables du 13 novembre au 18 décembre. Avis important, la collecte avec sac se poursuivra jusqu'au 31 décembre. Les bacs ne pourront être utilisés qu'à partir du 1er janvier.
En début décembre, chez Oli, profitez de rabais variés dans tout le magasin, comme le matelas ressort québécois Matelas René Minot à partir de seulement 1 059 $. En décembre, Oli offre de la qualité à bas prix abordable. Oli, matelas, base et literie.
CLFM 103.7 couvre le territoire du KRTB et Charlevoix depuis 1947. En direct du studio Remax Rivière-du-Loup. Les actualités Cogeco Nouvelles.
Le lundi 16 décembre, ici Stephen Zerbinski, voici les nouvelles. Eh bien, l'année 2025 s'annonce comme une année record pour l'industrie de la construction au Québec, notamment avec un élan dans le secteur de la construction résidentielle. La Commission de la construction du Québec s'attend à ce que l'industrie, dans son ensemble, enregistre un peu plus de 211 millions d'heures de travail, comparativement à 210 millions d'heures pour l'année 2024 qui prend fin. Selon le ministre du Travail, Jean Boulay, il s'agit d'une bonne nouvelle qui va s'accompagner tout de même de certains défis importants.
On s'en va vers les records sur le plan économique du secteur de la construction, mais ces dynamiques-là, ça me fait réaliser à quel point c'est des défis puis des opportunités pour notre main-d'œuvre qualifiée. On est en fort déficit de main-d'œuvre dans tous les métiers.
Une majorité de Québécois et Québécoises croient que le gouvernement Legault ne doit plus subventionner Lyon Électrique et Northvolt. Selon un nouveau sondage léger effectué pour le compte du journal de Montréal, 52 % des répondants pensent ainsi. Dans le dossier Northvolt, la mauvaise presse, les difficultés financières et les controverses liées à l'absence d'évaluation environnementale ont coûté cher aux géants suédois qui cherchent à établir une usine en Montérégie. Dans le cas de Lyon Électrique, qui fabrique, faut le rappeler, des camions et autobus électriques à Saint-Jérôme, 66 % des personnes interrogées s'opposent à leur soutien ou ne savent pas si Québec devrait les aider. Rappelons que Lyon Électrique de Saint-Jérôme a jusqu'à aujourd'hui pour éviter de devoir se protéger de ses créanciers. C'est aujourd'hui que la ministre fédérale des Finances, Chrystia Freeland, va déposer sa mise à jour économique. L'exercice va dévoiler la réponse du gouvernement libéral aux menaces de tarifs de 25 % du président élu Donald Trump sur les exportations canadiennes vers les États-Unis. Déjà, on sait que le déficit sera plus important que la cible de 40 milliards de dollars fixée par Chrystia Freeland l'an dernier. L'énoncé doit également comprendre des mesures visant à encourager les investissements des entreprises au Canada. Eh bien, surveillez également la livraison du courrier qui devrait reprendre dès demain mardi chez Poste Canada en fonction des régions. Les syndiqués étaient en grève depuis déjà un mois. Alors, le ministre fédéral du Travail, Stephen McKinnon, a imposé, rappelons-le, vendredi une prolongation de la convention collective des 55 000 travailleurs jusqu'en mai. La direction de Poste Canada et ses employés ont d'ailleurs participé au cours du week-end à des audiences du Conseil canadien des relations industrielles pour déterminer si les négociations étaient réellement dans une impasse. Québec a annoncé en fin de semaine une entente de principe avec la Fédération de la santé et des services sociaux affiliés à la CSN. Elle touche le quart des responsables de services de garde éducatifs en milieu familial. Selon Québec, l'entente permettra d'augmenter le nombre de places, d'encourager la prise en charge de poupons et d'améliorer l'attraction et la rétention des responsables des services. Les détails demeurent confidentiels jusqu'à ce que les membres se soient prononcés sur le contenu de l'entente. Eh bien, situation extrêmement difficile à Montréal alors qu'une panne de courant affectant l'arrondissement Saint-Michel est en cours et ce depuis la nuit de samedi dernier. Ce sont près de 700 logements qui sont actuellement privés d'électricité. Hier, des policiers du SPVM ont effectué du porte-à-porte. On écoute le porte-parole Jean-Pierre Brabant.
Les informations qu'on détient à ce moment-ci, là, c'est que Hydro-Québec travaille très fort là, pour rétablir le courant. Il devrait avoir une possibilité là, cet après-midi que les gens retrouvent l'électricité, alors puissent regagner là, leur logis. Mais en attendant, il y a toujours ces haltes de chaleur et ces centres d'hébergement là, qui sont mis à disposition là, des résidents.
Vous écoutez Cogeco Nouvelles.
À Ciel FM. Bonjour, Grand Portage. Météo.
Détail météo, donc aujourd'hui, c'est une belle journée. En plus, on va atteindre le point de congélation. Le maximum prévu, c'est zéro, avec du soleil mur à mur pour ce soir et cette nuit. Il y aura quelques nuages avec des températures à la hausse pour atteindre plus 3 demain. On parle de pluie avec des rafales à 70 km/h, maximum de 7. Ça demeure nuageux pour mercredi avec un maximum de plus 2. Et jeudi, un peu de neige, maximum moins 3.
Température actuelle.
Sur Rivière-du-Loup, présentement, on est à moins 6 degrés, moins 10 avec le refroidissement éolien.
Plongez au cœur de l'actualité avec nous. Notre engagement, vous livrez l'information sans compromis. Au rythme de l'information. Avec Kevin Beaulé. C'est Bonjour Grand Portage.
La chronique économique vous est présentée par Mallette, comptable professionnel agréé. Vous êtes propriétaire dirigeant qui désire assurer la pérennité de son organisation et prépare les ressources qui prendront la relève. Que la relève s'effectue avec des membres de la famille ou des employés, l'intervention des professionnels de Mallette amorce et facilite le dialogue entre les différents intervenants. Les techniques utilisées assurent la crédibilité de l'intervention et le succès de la transition. Mallette, avec vous là où ça compte. 862-04-4.
Salut Patrick.
Pour commencer, un mot sur le congé de TPS qui a commencé samedi dernier.
Oui, tu voulais avoir un peu la liste hein, de ce qui est touché ou pas. Il y a bien du monde qui est mêlé, les commerçants aussi. Donc, en gros, il faut retenir qu'il y a 4 catégories. Donc, je te dirais ce qui touche les enfants, les couches, les vêtements, les chaussures, les jouets. Ça inclut les consoles de jeux vidéo. Deuxième catégorie, la nourriture. Donc, les repas au restaurant, ceux qu'on va chercher, ceux qui nous sont livrés. Ça inclut la nourriture aussi dans les épiceries qui, normalement, est taxée, là, comme le chocolat, les mets préparés ou les croustilles. Ensuite, troisième catégorie, l'alcool, donc le vin, la bière. C'est à peu près tout sauf les spiritueux. On peut résumer ça ainsi. Et la dernière catégorie, les livres. Et ça, c'est vraiment les livres pour tous les âges. Hein. C'est pas seulement pour les enfants. Il y a eu un peu de confusion là-dessus. Donc, livres, magazines et les casse-têtes à faire dans le temps des fêtes.
Mais même là, tu sais, on dit ça, les casse-têtes, etc. Là, je lisais dans un reportage de la presse en fin de semaine, c'est quand même compliqué pour les commerçants parce que il y a certains jouets, ceux qui s'adressent aux moins de 14 ans, qui sont détaxés. Mais après ça, tu sais, ça a l'air simple. Qu'est-ce qui est pour moins de 14 ans? Qu'est-ce qui ne l'est pas? T'as différentes interprétations selon les juridictions. Des fois, c'est pas nécessairement écrit. Il paraît que c'est un casse-tête pour les commerçants.
Oui, c'est vraiment pas facile. Je t'en avais parlé de dire, ben, ne serait-ce que pour le système informatique, comment on va gérer ça? On a vu aussi des reportages là, dans les bars. C'est difficile là, d'organiser un peu le système. Mais oui, juste de faire les catégories, quel casse-tête ou quel jouet qui entre, qui est détaxé ou pas, ça aussi, c'est un casse-tête. Et tout sera recommencé dans 2 mois, Patrick.
Et on va recevoir, c'est ça, c'est aussi ce qui casse la tête et pour pas dire autre chose. Des commerçants, là, tout ça est commencer dans un peu moins de 8 semaines. On va recevoir un commerçant, d'ailleurs, un peu plus tard à l'émission, qui va nous parler de son casse-tête. OK. On va parler de Lion Electric. Aujourd'hui, 16 décembre, c'est une date importante pour le fabricant d'autobus et de camions électriques québécois, là, parce que il y a aujourd'hui une date limite. On doit rembourser des prêts. Il semble qu'il n'y a pas de sauveteur à l'horizon.
Non, c'est ce que la presse nous apprend ce matin. Pas de sauvetage qui a eu lieu là, à minuit moins une, comme dans les films d'action. Donc, on est un peu tanné d'entendre parler de l'agonie de Lyon. Hein. Ça s'étire. Mais là, je pense que c'est important de mentionner là, qu'aujourd'hui, à moins d'un revirement inattendu, l'entreprise va devoir se placer à l'abri de ses créanciers. Ça devrait arriver dans les prochaines heures parce que la caisse de dépôt, Ifinalta, avait donné à Lyon jusqu'à aujourd'hui pour rembourser 30 millions de dollars et c'est de l'argent qui semble-t-il, on n'a pas trouvé. Ouais. Ce que ça va faire, c'est que tous les petits investisseurs, là, les gens à la maison qui possèdent des actions de Lyon, ben, risquent de tout perdre. Ils ont déjà pas mal tout perdu. Hein. L'action ce matin est à 3 sous. Alors, ceux qui ont acheté peut-être il y a un an à 1,50 $, 1,80 $, là, il ne reste plus que 3 sous l'action. Et les 200 millions qui ont été versés par Québec, par Ottawa, par le Fonds de solidarité, ben, tout cet argent-là aussi hein, se retrouve à risque. On pensait que peut-être Max Saputo, qui est en discussion, allait sauver l'entreprise, mais pour le moment, il n'y a rien qui aboutit. Québec est prêt à allonger de l'argent, mais juste sur le privé et de la partie. Donc, ça risque d'être vraiment difficile parce que des entreprises, Patrick, une fois qu'elles sont sous la protection des tribunaux, elles peuvent continuer leurs activités. On l'a vu beaucoup dans le commerce de détail. Hein? Il y a des entreprises comme Aldo, Dynamite, Reitman. Donc, en restructuration, les magasins restent ouverts, les gens continuent d'acheter des vêtements, des chaussures, l'argent rentre et là, l'argent finit par être sauvé, par sortir de la restructuration. Mais dans le cas de Lyon, qui va acheter un autobus d'une compagnie au bord de la faillite quand on sait qu'on n'aura pas de service après-vente si on a des problèmes, qu'on trouvera pas de pièces de rechange si on a un bris mécanique? Alors, je vois pas vraiment comment on va faire pour continuer à vendre des autobus dans un processus comme ça. Ça risque d'être très difficile. Ça regarde mal. Je pense qu'on va s'en reparler cette semaine.
On sait qu'il y a beaucoup de fonds publics qui ont été injectés dans Lyon et il y a un dossier du Journal de Montréal qui a retenu ton attention, Marie-Ève, en fin de semaine, là, et ça se poursuit même aujourd'hui, sur justement l'aide publique aux entreprises en général. Et même si ça fait des années que tu couvres l'actualité économique, tu as appris des choses qui t'ont fait sourciller là-dedans.
Oui, mais c'est un peu le vieux principe de l'arbre et de la forêt, Patrick. Je te dirais que, tu sais, pendant des années, on lit, on apprend que, bon, l'argent a été donné à gauche, à droite. Et puis là, quand toute l'information est réunie, on réalise vraiment l'ampleur du phénomène. Et là, on voit la grosseur de la forêt qui est formée par les aides de Québec. Et c'est assez stupéfiant. Ouais. Et là, je tiens à préciser, là, je suis vraiment pas contre les subventions, encore moins les prêts. À partir du moment où toutes les autres provinces en donnent, les États-Unis en donnent beaucoup aussi, mais on n'a comme pas le choix hein, au Québec d'embarquer dans la parade. Là. Puis il ne faut pas non plus tout mélanger parce que bon, une subvention à un organisme de charité qui héberge des femmes battues ou qui habille des enfants l'hiver, c'est pas la même chose qu'une subvention à une multinationale qui fait des millions, voire des milliards. Mais il y a quand même beaucoup d'éléments dans le dossier du Journal de Montréal qui soulève des questions, je trouve, sur nos questions, sur nos façons de faire au Québec, parce qu'il y a plusieurs problèmes. Avant que je les aborde, je voulais juste te donner peut-être une idée des chiffres là, pour qu'on ait une idée de l'ampleur du phénomène de la distribution des fonds publics, donc nos impôts. En moyenne, à chaque mois, le ministère de l'Économie verse 216 millions de dollars en prêts et en subventions. Et ça, c'est la moyenne depuis l'élection de la CAQ. C'était à l'automne 2018. Du temps de M. Couillard, donc le gouvernement précédent, on était à 129 millions de dollars par mois. C'est une augmentation de 67 %. Bon, évidemment, les comparaisons ne sont pas parfaites parce qu'il y a eu la pandémie, donc il fallait quand même aider les entreprises à ce moment-là. Il y a l'inflation aussi qui joue. Mais ce qui me fait beaucoup sourciller, c'est qu'on n'aide vraiment pas juste des PME qui ont besoin de croître ou des jeunes pousses dans des secteurs en émergence, un peu comme Lyon. On parle d'entreprises milliardaires dans certains cas. Et le dossier nous permet de vraiment avoir la liste hein, de toutes les entreprises qui ont bénéficié d'argent. Et un exemple très récent, il y a 3 jours, Rio Tinto a obtenu 7 millions pour un projet là, lié au gallium. Ça, c'est un minerai qui entre dans les semi-conducteurs. Rio Tinto, ça a fait presque 6 milliards de profits juste dans les 6 premiers mois de l'année.
Ils n'ont pas besoin de 7 millions.
7 millions, là, j'ai fait quelques calculs, là, c'est les profits qu'ils font en un après-midi, Patrick. Alors, pour eux, c'est comme une goutte qui doit pas changer grand-chose. Puis si au moins Rio Tinto payait de l'impôt, beaucoup d'impôts au Québec, ça serait moins pire, mais là, seulement 18 millions l'an dernier.
Il y aurait beaucoup à dire sur l'aide publique aux entreprises, là, qui fait l'objet de ce dossier dans le Journal de Montréal, mais je veux que tu prennes 30 secondes pour expliquer aussi qu'il y a un grand manque de transparence sur ces aides publiques.
Le Journal de Montréal là, nous apprend là, que toute l'information sur les subventions qui ont été données avant 2022 a été effacée du site web du gouvernement du Québec. Ça, je trouve ça particulièrement préoccupant. J'espère que c'est une erreur qui va être corrigée, mais ça semble pas. Puis ensuite, on sait pas les conditions des prêts. Et ça, ça aussi, je trouve que ça soulève beaucoup de questions, là. On nous dit qu'on peut pas donner de l'information confidentielle sans